La voix de l'autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire. Bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio B, bienvenue dans La Voix de l'Autre. Aujourd'hui, La Voix de l'Autre est celle d'une professionnelle. La Voix de l'Autre est celle du docteur Myriam Kabissi, pédiatre. Nous faisons suite à la dernière chronique avec une maman d'enfant avec des troubles neurodéveloppementaux. Et nous avons choisi de rencontrer le docteur Myriam Kabissi, pédiatre à l'hôpital Fléria et en service médico-social pour l'APF France Handicap, l'association l'APF France Handicap. Docteur Myriam Kabissi, bonjour.
Bonjour.
Alors, première question pour vous. Vous êtes pédiatre spécialisé en néonatologie à l'hôpital Fléria. Dans votre parcours de pédiatre, vous avez été amené à vous interroger sur les enfants porteurs de troubles du spectre autistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours vers ces enfants, s'il vous plaît?
Alors, au départ, ma formation était vraiment réservée pour des enfants très petits ou particulièrement des nouveau-nés en situation de réanimation. Donc prématurés, retard de croissance, enfants à terme qui avaient une mauvaise adaptation à la naissance. Et ce que je fais essentiellement, ce que j'ai fait initialement à Dijon et que je continue à Bourg-en-Bresse. Mais après cette période initiale où on accompagne les enfants à la vie et on les rend à leurs parents pour qu'ils puissent continuer leur parcours de vie, eh bien on les suit. Initialement, dans ma formation à Dijon, j'étais simplement là pour ce passage à la naissance. Mais quand je suis arrivée à Bourg, ces enfants, je les ai vus, revus, et ainsi de suite. Et maintenant, les plus âgés, ils ont la vingtaine. Et initialement, tous mes patients allaient bien. Et parce que j'étais peu expérimentée et pas formée à plein de diagnostics. Et puis avec l'expérience, également l'expérience de la vie, et de devenir soi-même parent, je me suis rendu compte qu'un certain nombre d'enfants avaient des particularités, des difficultés. Et puis il y a quelques années, on m'a proposé d'accompagner une consultation spécialisée pour les troubles du neurodéveloppement, et particulièrement les troubles du spectre de l'autisme, pour dépister précocement les enfants de moins de 4 ans. Pourquoi ? Parce que il y a un retard diagnostique en France qui a été établi et pour lequel l'État essaie de remédier. C'est un diagnostic qui fait peur, mais qui est indispensable parce que maintenant on sait que les enfants qui ont ce trouble sont différents, mais en même temps sont des humains. Ils vont rester à vie porteurs de ce trouble, mais leur pronostic de vie, leur qualité de vie, leur capacité à s'adapter à la société, à s'équilibrer, à être épanoui, va dépendre d'un repérage précoce, d'un travail pour leur permettre de développer des habiletés sociales, ce dont ils sont dépourvus. Et tout se joue les premières années de vie, particulièrement ces 4 premières années. Ça ne veut pas dire qu'après, le diagnostic n'est pas intéressant, mais dans les formes les plus symptomatiques, ce diagnostic précoce change la qualité de vie de l'enfant, de sa famille. Donc l'État a financé, et via le CRA, le Centre de référence de l'autisme, des postes dans différentes régions pour faire un maillage et que des équipes de deuxième intention, de deuxième ligne, soient créées pour faire ce repérage précoce et orienter l'enfant et ses familles dans des rééducations, poser un diagnostic ou l'accompagner dans la voie du diagnostic qui peut être difficile précocement. Donc parfois rien n'est figé les premières années, mais dans le doute, on dit qu'il y a un doute, et ce doute permet de créer une urgence thérapeutique. Comme si on disait, j'ai mal dans ma cage thoracique, la question c'est pas de dire, oh c'est pas grand chose, c'est de dire c'est peut-être un infarctus, allons faire des bilans. Dans le doute on appelle le SAMU et on essaye de faire quelque chose parce qu'on sent que ça peut vous sauver la vie. Et voilà, donc ça s'est monté il y a quelques années, maintenant on est au moins 2 médecins à participer à cette consultation. Docteur Gautré Mireles, qui est médecin généraliste à la base, mais qui exerce maintenant à l'hôpital et qui a particulièrement fait tout le long de son cursus de médecin généraliste une formation très spécialisée pour ce diagnostic en particulier et accompagner au mieux les enfants. Et puis moi-même et Floriane Roussel-Mirgonin qui est neuropsychologue.
D'accord, donc vous êtes une équipe pluridisciplinaire pour ce diagnostic. Donc on a entendu du coup que votre parcours de pédiatre vous a amené à vous intéresser et à ces enfants qui sont porteurs de troubles du spectre autistique. Certainement aussi, avec l'avancée au niveau des connaissances sur ces troubles du neurodéveloppement et leur diagnostic. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire ce que sont les troubles du spectre autistique ?
Alors, je dirais que maintenant, on va plutôt utiliser le terme du spectre de l'autisme, et j'aime mieux ce terme-là. Pourquoi ? Parce que le mot spectre peut faire peur, parce que ça peut ressembler au mot fantôme, mais pas du tout. Le mot spectre, il est en analogie avec la lumière, c'est le spectre de la lumière. Et finalement, j'aime à penser qu'on est tous sur ce spectre-là. On est tous sur la même bande, on est tous des humains. Et au début de ce spectre, finalement, il y a des gens qui vont être nommés comme typiques. Ils n'ont aucun ou très peu d'éléments de traits autistiques. Et puis, plus les traits se constituent, et on sait que dans la population générale, tous sont les porteurs de traits autistiques, plus les traits sont importants, plus ça change votre couleur, votre lumière. Et finalement, on va rentrer dans le trouble. Il y a des définitions très précises qui ont été réactualisées sur la définition du trouble. Mais peut-être dans une image que j'utilise pour moi-même et pour mes patients et pour les familles, je dis ce qui fait trouble, c'est ce qui fait souffrance. Finalement, il y a probablement plein de gens qui sont porteurs d'un trouble du spectre de l'autisme. Ils ne se sont pas rendus compte. Ils découvrent parfois à la fin de leur vie qu'ils le sont. Mais finalement, ils ont fait avec. Ils ont trouvé un équilibre de vie tout le long. Ils se sont adaptés, aménagés, parfois avec des difficultés. Donc, ils le sont, mais finalement, tant qu'on a pu faire avec peu de moyens, on fait partie du commun des mortels et on est tous exposés à des difficultés ou des souffrances. Quand finalement tout devient difficile dès le démarrage finalement de la vie, dès les premières minutes ou heures de vie, dans l'ajustement à l'autre, le lien d'abord avec sa mère, le lien avec ses parents, puis après à l'école, le lien avec les autres enfants, l'enseignant, le groupe, on peut suspecter un trouble du spectre de l'autisme parce que le trouble du spectre de l'autisme, c'est quelque chose de très particulier. C'est premièrement un trouble de la communication et de la relation sociale. Deuxièmement, c'est des intérêts particuliers ou restreints. Les gens sont encore peu formés, le commun des mortels, la population générale, les médecins, l'éducation nationale. Finalement, on a tous un retard. On connaît tous les autismes avec des formes sévères. Et on pense que c'est ça l'autisme. L'autisme a plein de visages. L'autisme, c'est monsieur et madame tout le monde, c'est peut-être vous qui écoutez à l'instant et vous allez peut-être découvrir que vous-même, vous êtes porteur du trouble du spectre de l'autisme. Quand on dit communication, ce ne sont pas des personnes qui ne parlent pas. Parfois, c'est des personnes qui parlent trop, à mauvais escient. Mais surtout, c'est des personnes qui ne peuvent pas s'ajuster à l'autre. Ce ne sont pas des personnes qui n'ont pas d'émotions, qui sont froides, mais c'est des personnes qui ne décodent pas nécessairement de manière ajustée l'autre. Parfois, ils peuvent décoder, mais partiellement. Et pour le coup, c'est fatigant. Les enfants, les adultes porteurs de ce trouble dépensent beaucoup plus d'énergie, sont fatigués de toujours devoir s'adapter. C'est important de les dépister, de les accompagner, parce que c'est souffrant de ne pas comprendre l'autre. C'est-à-dire, vous êtes un Français qui habitait en France, vous êtes né en France, mais vous ne comprenez pas le français. C'est comme si le monde extérieur, c'était des extraterrestres. Les personnes porteurs d'un trouble du spectre de l'autisme sont des humains qui vivent sur Mars. Ils voient arriver autour d'eux des Martiens, ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils vont être gentils ou méchants ? Chaque attitude corporelle, chaque mot a des sens qu'ils ne comprennent pas. Et ça peut être extrêmement angoissant. Et face à ces angoisses, on peut avoir, la personne qui présente ce trouble du spectre, peut avoir un comportement inadapté qui va faire que les extraterrestres, nous, les humains, non autistes, si vous ne l'êtes pas, vont avoir...
Neurotypiques.
Vont avoir une attitude inadaptée en se disant, ce gars-là, cette nana-là, cet enfant-là, il est vraiment trop bizarre. Et avec une tendance à vouloir le mettre un peu de côté. Ce qui est bien, parce que cette personne qui présente un trouble du spectre de l'autisme, elle, face à ce monde extérieur angoissant, dangereux, va vouloir se mettre dans sa bulle. Et elle s'enferme. Le danger de se mettre dans sa bulle, c'est que notre cerveau, quand on est, n'est pas figé, il doit se développer. Et il doit se développer au contact des humains, des autres humains, de la relation humaine, sociale. C'est vital pour nous, humains, d'être en lien avec les autres. Ça nous permet de développer toutes nos compétences. Si on reste enfermé dans notre bulle, on peut devenir déficient si on ne l'était pas au départ. Et si on l'était un tout petit peu au départ, on le devient gravement. Donc, dès le départ, dès les premières stimulations, probablement dès la vie intra-utérine, tout se joue. Donc, permettre à l'enfant de se développer avec ses capacités. Certains enfants ont moins de capacités que d'autres, mais tous les enfants doivent se développer avec des cartes. On joue une partie de poker, et c'est en fonction de comment on va nous insérer dans la vie qui va permettre à l'enfant de développer tout son potentiel, même s'il est différent du commun des mortels.
D'accord. Merci beaucoup pour cette explication, Dr. Myriam Kabissi. Vous êtes bien, chers auditeurs et auditrices, sur La Voix de l'Autre et nous recevons le Dr. Myriam Kabissi, pédiatre. Si j'ai bien compris, du coup, l'importance que vous dites, l'importance pour les enfants d'avoir des diagnostics précoces, notamment sur le spectre de l'autisme, comment finalement les familles arrivent jusqu'à vous, arrivent jusqu'à la consultation à l'hôpital de jour Fléria et arrivent, font ce chemin vers vous, vers ce diagnostic comment, quels sont les repérages, quels sont les, parce que ce qu'on entend aussi dans ce que vous dites, c'est finalement la nécessité d'informer, de sensibiliser pour que finalement les enfants arrivent jusqu'à vous déjà.
Alors qu'est-ce qui fait qu'on arrive à cette consultation c'est d'être adressé par une équipe, une personne. Un parent seul ne peut pas arriver à cette consultation, il doit être orienté. Qui peut l'orienter? Son médecin traitant, le médecin de PMI le plus souvent, tous les professionnels, une orthophoniste qui voit un enfant parce qu'il a une parole, un langage inadapté ou pas de langage. Ça peut être les services d'accueil d'enfants, de la crèche à l'école, sont eux le plus souvent qui adressent l'enfant. Ce qu'il est important, c'est d'écouter souvent aussi la parole des parents. Le plus souvent, les parents ont interpellé quelqu'un en disant, et souvent les mères, « Je m'inquiète, mon enfant ne fait pas ci, mon enfant ne fait pas ça, il ne ressemble pas à mes neveux nièces, il ne ressemble pas à mes autres enfants, je me pose la question. » Mais parfois, la famille n'a pas interpellé parce que l'enfant, au sein de sa famille, est adapté. Et finalement, par osmose, la famille s'est adaptée à l'enfant et crée et rentre dans la bulle de l'enfant et tout va bien. Et c'est souvent le passage à l'extérieur qui fait exploser ça et qui peut rendre la famille en colère, qui ne comprend pas toujours
les retours quand qu'ils ont de la crèche ou de l'école.
Ils ne reconnaissent pas leur enfant dans ce qu'il leur est dit. Et c'est ça qui est important. Pas de se dire que la crèche ou l'école dit n'importe quoi, mais se questionner pourquoi cet enfant, qui va si bien, lorsqu'il quitte la maison, ne va plus si bien. Et on dit, on convoque et on dit que cet enfant ne va pas bien. Et il faut chercher une explication, pas se dire qu'en face on vous dit des bêtises, pas se dire que c'est un autisme, mais se dire que dans tous les cas, il faut qu'on essaye de maintenir l'enfant dans un bon équilibre de vie. Donc c'est un des diagnostics qui fait que l'enfant peut être déstabilisé. Et c'est par ce biais-là que cette consultation se met en place. On fait un écrit. Le but, c'est de ne pas savoir le diagnostic, mais c'est de se dire qu'est-ce qui se passe et d'essayer de comprendre précocement.
D'accord. On va être obligé de s'arrêter là. Comme on avait pressenti, Dr. Myriam Kabissi, je pense qu'il faudra qu'on vous réinvite parce qu'il y a bien d'autres choses à dire. Là, on était sur le dépistage et le diagnostic, mais vous n'avez pas encore eu le temps de nous parler de la prise en charge ensuite, après ce diagnostic, qui est aussi très importante. Donc, je vous remercie beaucoup
Merci à vous.
Pour vos réponses et cette interview. Je souhaitais terminer cette La Voix de l'autre sur une consultation, enfin, sur un... j'imagine que dans vos consultations de pédiatre, vous tenez compte bien sûr de l'enfant, c'est votre patient, mais bien sûr de son environnement, qui sont en premier lieu les parents, et aussi la fratrie. Donc j'aurais voulu parler aux auditeurs de La Voix de l'autre, aux auditeurs et auditrices, d'un podcast sur France Culture, l'émission Les Pieds sur Terre, du 7 mars 2022. Un podcast qui s'appelle Grandir dans une fratrie très singulière, qui est le témoignage de sœurs et frères désormais adultes de personnes lourdement handicapées. Il s'agit donc d'adultes qui racontent comment le handicap d'un frère ou d'une sœur écrit l'enfance de celui qui va bien, entre les crises insoutenables et les moments de joie. Voilà, c'est un podcast d'Anne-Laure Chanel qui est issue notamment de son livre qui s'appelle « Sœurs sans bruit, grandir avec un frère différent » aux éditions du Rouergue. Et docteur Myriam Kabissi, je voulais aussi parler de ce podcast parce que je sais l'intérêt que vous portez aussi à l'environnement de l'enfant, notamment dans vos consultations pour son bien-être, hein, et notamment aux membres de la fratrie. Et dans ce podcast, une phrase m'a fait penser à votre pratique professionnelle, je vais la dire, voilà, où vous dites souvent, je crois, il faut nommer un chat un chat. Et dans ce podcast, ils ajoutent, il faut nommer un chat et un chagrin, un chagrin. Voilà, je trouvais ça très beau. Je vous remercie, chers auditeurs et auditrices de La Voix de l'Ose. Je remercie à nouveau le docteur Myriam Kabissi. Je remercie Jimmy à la réalisation. Et je vous dis au mois d'avril, à bientôt au printemps. Au revoir.
Au revoir.
La Voix de l'autre, à la rencontre d'une personne extraordinaire.